Europe 1 Social Club.
21h, 22h.
Frédéric Taddeï.
Mathieu Terrence, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de plusieurs romans, de poèmes, d'essais. Votre dernier livre, c'est un essai intitulé « De l'avantage d'être en vie » qui vient de paraître chez Gallimard. J'ai dit que c'était contre le nihilisme contemporain. Vous êtes d'accord ?
Oui, on peut dire ça, oui.
Moi, j'ai l'impression que c'est contre Houellebecq.
Sens, il incarne avec génie une part nihiliste de notre Occident mondialisé.
Quand vous stigmatisez les prédicats morbides des nihilistes contemporains, l'hypnose consumériste, leur dangereuse frustration, j'ai l'impression que vous décrivez...
Il a chamanisé, en un sens, le négatif de notre époque. Un peu comme au début du XXe siècle, Céline avait chamanisé le négatif de son temps. Et c'est de l'ordre de cette stature-là. Simplement, on n'est pas obligé d'abonder ni de participer à cela. Et bon, c'est sans doute un léger contre-pied que je propose avec ce livre, avec cette pensée.
Le nihilisme contemporain, pour vous, est différent de la mélancolie occidentale un peu désespérée de la fin du 19e siècle, oui. Celle dans laquelle avaient trempé des écrivains comme Huysmans, par exemple.
Oui, effectivement. Au début du livre, j'essaie de le situer dans les raisons pour lesquelles je l'écris, et je fais une sorte de généalogie de la mélancolie. Et en Occident, je la, en tout cas de manière arbitraire, mais je la fais un peu éclore ou se déployer au début du 19e siècle, en Occident donc, et j'essaie de voir ce qu'il en est, d'un sentiment de quelques singularités oppressées par la montée en puissance de la bourgeoisie et de la classe moyenne qui devient une sorte de classe mondiale. Nous sommes passés à la déprime même de cette classe mondialisée qui se retrouve un peu dans une sorte de vide de sens. Dieu est mort. La révolution semble être vouée à une illusion dans le meilleur des cas ou dans un carnage. Ce que je disais, donc les possibilités de transcendance sont réduites à peu près à éventuellement se survivre techniquement. Cette mélancolie, j'essaie d'en faire une petite généalogie parce que j'estime que dans celle qui peut nous toucher aujourd'hui, il y a une part certainement de nature personnelle de chacun, mais il y a aussi le climat dans lequel on est. Et moi, j'ai eu l'impression que, pour utiliser un mot un peu prétentieux, que ma génération est née à un moment ou a éclos à un moment d'une phase terminale de cette mélancolie-là. Et d'ailleurs, une phase qui peut d'ailleurs s'éterniser, le nihilisme peut devenir tout à fait un fonctionnement et un système. Ce n'est pas simplement une putréfaction ou une destruction, ça peut être une société totalement sophistiquée, peut être entièrement nihiliste.
Vous faites dans cet essai, Mathieu Terrence, une apologie de la vie, donc c'est le contraire de la littérature de l'amertume un peu suicidaire, la littérature des esprits chagrins qui est à la mode en ce moment.
Alors oui, en même temps je ne jette la pierre à personne, mais en un sens quand il y a quelqu'un de stature de Houellebecq, ce qui est amusant, c'est qu'il carbonise tous ceux qui sont naturalistes. C'est-à-dire que ça laisse un champ ouvert à quiconque n'a pas envie de faire ce constat-là ou cette sociologie-là, parce qu'il a, à mon avis, vitrifié le domaine. J'ai un autre corps, j'ai une autre manière certainement de considérer ma vie et même de l'éprouver. Et donc j'essaie de m'écouter en faisant le tri de certainement cet adolescent mélancolique avec des tendances suicidaires, assez enclin à aussi avec l'esthétique de mon époque. Moi, la décennie des années 80 où je deviens adolescent, ça commence avec Closer de Joy Division, ça finit avec Disintegration de Cure.
Pas de quoi se réjouir.
Alors il y avait la compagnie créole, mais c'était difficile d'avoir l'air un peu intelligent ou sensible avec la beauté et la gaieté. Et j'ai donc dû comprendre à la fois ce qui faisait, ce qui était l'influence de mon époque, et comprendre que il y avait une intelligence de la vie, des grandes choses ayant un trait à la vitalité, à la beauté aussi, au plaisir, et que c'était accessible, et c'était même en fait c'était la voie à suivre. En un sens, un suicidé, il l'a fait pour nous. Enfin voilà, d'une certaine manière, Nierkenstis, il a réglé le problème. Et excusez-moi, c'est peut-être un peu pointu, mais le grand disque, c'est Confusion de New Order. C'est eux qui ont tout compris. C'est quand ils se mettent à danser.
La nostalgie, Dieu sait si elle est très présente hein, aujourd'hui, Mathieu Terrence. Vous aimez pas ça, vous, hein, les pas motrices, dites-vous. C'est avec la nostalgie que les hommes bas se donnent des airs supérieurs, dites-vous.
Oui, alors il y a un côté un peu peut-être, un peu provocant dans le livre, dans le sens où je m'attaque à des grandes choses qui sont, je trouve, un peu trop valorisées de prime abord, comme ça. Hein. On a l'air intelligent parce que on serait désespéré. On a l'air sensible parce qu'on serait sentimental. On a l'air profond parce qu'on serait mélancolique ou déprimé. Et tout ça me paraît vain, facile et au fond un peu bête. Enfin, je veux dire. Voilà, donc c'est vrai que je...
Au fond, ce que vous essayez de montrer dans ce livre également, c'est que c'est pas forcément les esprits chagrins, les gens blasés qui ont fait les grandes œuvres. Les grands artistes, la plupart du temps, dites-vous, étaient du côté de la vie. Baudelaire était du côté de la vie. Picasso, Nietzsche, Miles Davis étaient du côté de la vie, pas du côté de la mort.
Ça, c'est le 19e siècle, et peut-être vous serez d'accord avec moi, esthétiquement synonyme la beauté et le deuil, le funèbre, la perte, le spleen. Simplement, comme dans tous les grands artistes, quand bien même Baudelaire nous parle du spleen, la forme qu'il trouve à dire ce spleen est une sorte d'antidote de la chose même. C'est-à-dire que la beauté est une chose qui est une affirmation, quoi qu'il en soit. Et c'est quand le spleen gagne qu'il meurt, mais tant qu'il est poète, le spleen perd.
Bon, enfin. Les nihilistes, en revanche, contemporains, les esprits chagrins, comme vous les appelez, calomnient tant que possible ce oui à la vie, écrivez-vous. Toute joie devient leur bête noire. Ils sont persuadés que l'on est désespéré sans le savoir.
Ah oui, ça c'est très frappant. C'est-à-dire l'esprit chagrin, tel que je le caractérise un peu, comme je me suis aventuré à prétendre un peu le côté la bruyère, comment il prendrait un type de notre temps, c'est ce type. Alors là, il y a une pause. Hein. Je ne m'attaque pas aux gens qui sont réellement en souffrance, mais cette pause qui voudrait le désabuser lambda, et le désabuser lambda vous en veut énormément de ne pas l'être. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un type naïf ou très idéaliste, mais vous n'êtes pas désabusé. Et il va essayer de vous expliquer de toutes les manières que vous l'êtes au fond. Et vous lui faites passer un très mauvais moment si vous résistez à cette idée-là en disant mais non, tout n'est pas cuit, tout commence au fond, tout commence tout le temps.
Au fond, pour vous, et vous l'expliquez bien, page 98, tout est bon à prendre. Mariez-vous, dites-vous, vous vous en féliciterez. Ne vous mariez pas, vous vous en réjouirez. Quel que soit votre choix, vous ferez le bon. Amusez-vous des folies du monde, vous aurez raison. Désolez-vous-en, vous n'aurez pas tort. Dans les deux cas, vous serez lucide. Faites confiance à cette fille, cela vous profitera. Méfiez-vous-en, vous y gagnerez, etc. etc. Tel est le résumé de tout mon art de vivre.
Oui. Alors, ce livre, il procède aussi d'une lecture que j'ai faite des Diapsalmata de Kierkegaard au début de Ou bien, c'est 89 fragments où Kierkegaard, avec son génie, exprime sa déprime. Et ce fragment en particulier que vous venez de lire, il est directement un peu à la manière de l'autre amont. Je l'ai entièrement retourné d'un fragment qui est dans les Diapsalmata de Kierkegaard, mais lui, où il déplore tout cela et où il a fait un problème. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que ça tient tout à fait le coup si on le retourne en positivité. En fait, c'est une question, c'est un peu le « et alors » de Warhol. Warhol, le conseiller à toute question un peu dramatique, de répondre « et alors ». Et en fait, ce « et alors », »,« so what », effectivement, est une sorte de viatique. Enfin, il aide à passer les moments les plus compliqués. Comme ça.
Tout est bon à prendre, dites-vous, mais certaines idées sont hideuses.
Oui, effectivement.
On ne se trompera pas, dites-vous, si l'on explique la beauté par la générosité, la méchanceté par la frustration, l'atrocité par la peur.
Oui. Alors, j'ai essayé dans ce livre de passer du personnel presque à l'historial, en un sens. Et il y a un phénomène de mélancolie qui peut être très intime, mais qui peut être aussi presque continental ou spirituel. Et on peut voir dans divers domaines de notre actualité comment le nihilisme et sa force de destruction, sa rage en fait, du ressentiment qu'avait diagnostiqué Nietzsche, le ressentiment, à quel point il peut être destructeur au fond. Il est extrêmement virulent, mais il est aussi dans la destruction. Et en effet, je crois que il y a beaucoup de peur derrière quelqu'un qui est très violent, voilà.
De l'avantage d'être en vie, c'est signé Mathieu Terrence, ça vient de paraître chez Gallimard. Et...